Symbolisme des portes d'or. Donc, par les portes d'or, c'est le titre d'un petit ouvrage qui est la table des livres, mais on trouve bien sûr ce symbolisme ailleurs, comme on vient de le voir, dans la voie du silence. C'est un symbolisme très répandu. Les portes, les portes de l'enfer, les portes du ciel. Donc, c'est très simple, Bon, on passe d'un endroit vers un autre endroit. L'or, eh bien l'or, c'est aussi un symbolisme très très répandu. L'or, c'est la valeur, c'est le métal brillant. C'est associé bien souvent dans le symbolisme au soleil, c'est le métal inaltérable, inoxydable. Donc c'est effectivement tout un symbolisme spirituel qui est lié plus ou moins donc à l'or. Nous n'allons pas empiéter sur le sujet de la semaine prochaine, sur l'alchimie, donc nous ne parlerons pas plus de l'or. Mais, donc, les portes d'or. Bien sûr, ces portes peuvent être nombreuses à deux battants ou un seul battant. Il y a plusieurs portes, comme on l'a vu, possibles, parce que plusieurs étapes. Bon, les portes sont en or, mais on pressent que derrière, il y a donc la grande valeur. Alors, où mène, c'est tout de suite, on peut le dire, et on va essayer de l'expliquer ensuite, et essayer d'expliquer comment on peut y arriver. Eh bien, où mènent ces portes? Eh bien, c'est justement dans ce petit livre qu'on trouve que les portes d'or ne mènent à aucun lieu spécial. Elles ne font que s'ouvrir pour permettre de sortir d'un lieu spécial. L'homme les traverse quand il rejette ses limitations. Il peut briser la coque qui le maintient dans les ténèbres, déchirer le voile qui lui cache l'éternel en un point quelconque où il lui est plus aisé de le faire. Et le plus souvent, ce point se trouvera là où il s'attendait le moins à le découvrir. Donc nous sommes prévenus. Il y a des voies marquées finalement en fonction des hommes. Il y a des règles générales, comme celles qu'on vient de voir, et puis il y a des points plus particuliers qui sont en quelque sorte les points facilitateurs. Qu'est-ce que ça veut dire de passer les portes d'or? Eh bien, le courage d'y entrer, c'est celui de sonder sans peur et sans honte, le tréfonds de notre propre nature. La clé qui ouvre ces grandes portes se trouve dans la partie la plus fine, l'essence, le parfum subtil de l'homme. Donc nous allons essayer de comprendre donc pourquoi. On n'est pas habitué finalement de parler de l'homme qui rejette ses limitations. On est toujours habitué dans tous les médias, dans bien des livres, je crois que maintenant c'est en train un petit peu de changer, on est habitué à entendre parler des êtres comme étant limités à leur personnalité. Même l'âme est bien souvent employée dans un sens limitant. C'est bien sûr les religions habituelle, exotérique, dogmatique, qui la limite à finalement la personnalité elle-même qui va en enfer ou au paradis. Mais on reste finalement dans le limité. Et puis on trouve effectivement cette limitation ou ces limitations dans d'autres abords plus modernes de l'âme, mais finalement on ne va pas au fond des choses. La théosophie nous rappelle qu'il n'y a pas de vision réductrice des êtres, fondamentalement. À un moment donné, bien sûr, on peut être à un certain point de notre évolution, mais il n'y a pas de limite fondamentale. Alors ça implique peut-être, bien sûr, pour rejeter ces limitations, d'aller au-delà de la forme et au-delà du « moi ». C'est le sujet, finalement, le véritable sujet, le véritable nous-mêmes qui est en cause, et c'est le véritable sujet de la soirée. Et le véritable sujet de la théosophie en général, hein, qui même quand elle nous parle de karma et de réincarnation, ne nous parle pas simplement de la réincarnation comme si elle était un but en soi, ou comme s'il était à fuir, mais elle est donc cette réincarnation guidée par karma, le point d'appui qui nous permet d'aller plus loin spirituellement, au-delà de tout ça. Alors pour ça, il faut évidemment, pour comprendre ça, il faut comprendre un peu la métaphysique, bon, elle n'est pas très compliquée, mais la métaphysique de la théosophie. Pour la théosophie, effectivement, nous sommes une âme. Une âme qui utilise des corps pour entrer en contact avec la nature, qui s'incarne, se réincarne. Guidée donc par cette loi de karma qui ajuste l'effet à la cause et qui nous permet de récolter ce que nous avons semé. Mais, encore une fois, donc, ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas non plus de fuir, car en fait, cette âme est fondamentalement spirituelle. Elle n'a pas été créée par un Dieu personnel, comme un pauvre pécheur, hein, à qui ensuite on reprocherait d'être un pauvre pécheur. Non, pas du tout. Pour la théosophie, il y a un principe unique. L'absolu, c'est bien supérieur à une personnalité, hein, à un Dieu personnel anthropomorphe. C'est l'unité, c'est la cause sans cause, éternelle, omniprésente, immuable, illimitée. On ne peut pas en dire grand-chose d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui peut tenir dans notre mental, dans nos propos, qui ne peuvent désigner que cette direction, avec cette idée très simple et très abstraite de l'unité fondamentale. Et d'une cause, donc de tout, une cause absolue, qui n'est pas un caprice, une cause absolue qui n'est pas dans le temps. Il y a toujours eu des univers à travers leur cycle de manifestation et de réabsorption, mais il n'y a pas à l'origine la cause sans cause. La cause sans cause, elle est éternelle, elle est permanente, et il y a toujours eu des univers qui se succédaient. Et ce n'est pas par hasard, puisque ça relève une cause absolue, donc ça répond certainement à une absolue nécessité. Même si chaque chose nous paraît bien petite, finalement, chaque chose, chaque être, donc, car derrière les choses, il y a les êtres, est à sa place, à sa juste place dans ce grand dynamisme qui est celui de la conscience universelle. Cette unité, cet absolu, a deux aspects fondamentaux. L'esprit, toujours à prendre dans un sens très large, ce n'est pas un esprit, encore une fois, ce n'est pas un Dieu personnel. Et la matière, ou plus précisément la substance, dont la matière est l'aspect le plus grossier. Et les deux étant inséparables, absolument complémentaires, l'un sans l'autre, ça n'aurait pas de sens, et il n'y aurait personne pour se préoccuper du sens, d'ailleurs. L'esprit utilise la substance comme véhicule pour avoir, donc l'esprit c'est là, le pouvoir général de conscience, d'intelligence, les joies générales de la vie. L'esprit utilise la substance donc pour en quelque sorte se manifester à lui-même, se refléter à travers donc des plans de substance où sur ces plans il y a des véhicules qui permettent donc à la conscience d'être conscience, de fonctionner. C'est-à-dire que chaque être apparaît comme un rayon de cet esprit universel, hein, qui utilise des véhicules, des corps, mais la notion de véhicule est plus vaste que la notion de corps, le corps étant un véhicule, mais un véhicule pouvant ne pas être vraiment un corps au sens où on l'entend. Hein. Donc chaque être apparaît comme un rayon de cet esprit universel, utilisant donc sur les plans de la nature, les plans de substance, utilisant des véhicules et entrant en relation à travers ces véhicules avec d'autres rayons de cet esprit. Nous sommes des rayons de l'esprit. Nous sommes en quelque sorte l'esprit qui se parle à lui-même au sujet de lui-même à l'heure actuelle. Donc, voilà, nous avons besoin, la conscience a besoin de contraste. Donc, la conscience est une notion dynamique, l'intelligence aussi. Ce dynamisme donc, passe par donc, l'individualisation de la conscience, l'expérience, l'aspect cognitif par rapport à ces expériences, la recherche, la connaissance, l'évolution avec tous ces aspects physiques, l'aspect d'intelligence aussi, bien sûr, donc l'aspect spirituel, le retour en pleine conscience à la source, à l'esprit. L'esprit va pouvoir s'identifier à lui-même, bien au-delà de la forme. Il utilise la forme, il s'appuie dessus, mais il revient, donc à travers le règne humain, vers lui-même. Si chaque être, bien sûr, humain, s'y consacre. Donc, il y a toute une dynamique des univers qui est guidée par cela, c'est-à-dire l'expérience et l'émancipation de l'âme, le retour à la source, en pleine conscience. D'abord, bien sûr, il y a une individualisation progressive à travers ce qu'on appelle les règnes inférieurs, ils sont inférieurs si on le veut. Dans leur domaine, ils sont ce qu'ils sont. Une individualisation progressive de la conscience à travers les règnes inférieurs. Et puis, arrivé au stade humain, il y a donc, pour chaque monade, chaque rayon de cet esprit universel, il y a la possibilité de s'incarner, de se réincarner dans un corps humain en étant soi conscient. La conscience est consciente d'elle-même à travers tous les changements extérieurs, à la perception d'un centre de conscience et d'intelligence qui peut se poser en plus de grandes questions. On n'est pas obligé de toujours s'identifier au corps, au personnage social. Se pose de grandes questions. Et bien, il y a aux grandes questions, il y a des réponses qui sont grandes certainement, et même peut-être plus grandes que la question, puisque nous procédons par étapes. Donc il y a cette individualisation progressive, et donc cette arrivée au stade humain, où là on s'incarne dans des corps humains qui ne descendent pas de l'animal vraiment, les corps humains ne descendent pas du singe, c'est plutôt l'inverse. Et nous avons eu, il y a longtemps, donc quand nous sommes arrivés au stade humain, nos premières incarnations ont été guidées par des êtres plus avancés, qui ont allumé ce pouvoir de soi-conscience qui était latent, et cette intelligence qui est capable d'embrasser l'infini, de se poser des questions en rapport, et d'accéder aux réponses, et pas simplement intellectuellement. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'émancipation est possible, c'est-à-dire que l'esprit peut s'identifier à lui-même. Et c'est à partir de ce plan que cela se passe par nos décisions, nos efforts auto-induits, auto-déterminés. Quand on regarde la déclaration de la loge unité théosophe, on voit réalisation plus vraie du soi, c'est-à-dire il s'agit de s'identifier à ce soi universel de tous les êtres. Ça donne une connotation un peu particulière à la vie que de sentir qu'on est le même soi. C'est là que le mot identité prend toute sa signification, finalement. Conviction plus profonde de la fraternité universelle, puisque effectivement, la fraternité découle de cette notion d'unité. Mais ça, bien sûr, la notion d'unité lui donne une couleur tout à fait particulière. Bien sûr, nous ne sommes jamais séparés. Nous avons tous la même nature profonde, les mêmes potentialités. Nous ne sommes jamais séparés, non seulement par notre origine, mais également par notre vie sur les différents plans, à travers nos corps. Nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants physiquement, psychologiquement, intellectuellement, et aussi dans notre évolution spirituelle. Bien que personne ne puisse faire évoluer quelqu'un malgré lui, néanmoins, nous savons bien que nous avons besoin Nous avons besoin de conseils, d'encouragement, de changer des idées, nous avons besoin d'exemples. C'est pour ça que j'ai parlé dans la déclaration de donner l'exemple de la mise en pratique des principes par la réalisation plus grande du soi, par la conviction plus profonde de la fraternité universelle, pour déboucher, sur ce qui est dit aussi dans la déclaration, le véritable service de l'humanité, parce que finalement, le but n'est pas d'entrer trop vite en nirvana, hein. On s'identifie certes à l'unité spirituelle, mais on ne peut plus aider qui que ce soit. Les grands maîtres dont nous parlons, dont nous redonnons les enseignements, les grands maîtres ont renoncé au nirvana. Bien sûr, à la fin d'un grand cycle, ils entreront comme tout le monde, comme tous les hommes qui se sont consacrés à ça, ils entreront en paranirvana. Mais en attendant, eh bien, il s'agit d'aider l'humanité donc à se sortir de sa vie habituelle. C'est là que, effectivement, cette notion de porte prend toute sa signification, c'est-à-dire que la porte, elle peut être fermée. Il faut d'abord connaître l'existence des portes, avoir peut-être entrevu à un moment les portes d'or, dans une MDE par exemple, ou à d'autres occasions. Mais les portes peuvent être fermées. Une porte doit être ouverte ou fermée, comme on dit. Mais le fait pour être ouverte, puisque sinon on aurait fait un mur. Donc il n'y a pas de mur, mais il y a ces portes à l'intérieur, sondées en profondeur, comme on l'a vu. Donc il s'agit donc de se diriger dans la bonne direction pour donc arriver à ces portes et finalement les franchir, remplir les conditions. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de les franchir comme ça? Il faut savoir que toutes les nuits, on va dans un certain état spirituel, au-delà des rêves, qui nous en ramenons quelque chose, mais peu de choses, c'est vrai, mais nous serions plus sensuels, plus matérialistes, si nous n'allions pas sur ce plan dans la nuit. Mais on voit bien que, évidemment, il y a bien d'autres choses, d'autres préoccupations qui ont tendance à prendre le dessus. Il peut même y avoir un combat entre les diverses tendances. C'est le sujet de Bhagavad Gita. Arjuna, sur un champ de bataille, il y a des familiers dans les deux camps, mais il y a des flèches volent entre les familiers en question, et lui, il est invité à comprendre le sens du combat et à l'appuyer dans le sens où il l'aura décidé. Oui, parce que nous sommes des êtres incarnés et que nous avons cette capacité d'accorder de l'importance aux choses. Nous sommes chargés d'être conscients, en quelque sorte, par la conscience elle-même, qui est nous-mêmes, et d'accorder, d'être vraiment conscients, d'accorder de l'importance par notre mental, qui dit ça, c'est important, par nos désirs, désir ça, ah, je veux ça à tout prix. Bon. Voilà, alors nous cultivons des attachements, nous cultivons des idéologies, nous cultivons des religions qui font un compromis entre le ciel et la terre, mais qui finalement sont assez formelles et malheureusement assez dogmatiques. Bref, nous nous attachons, nous nous identifions à des choses limitées, avec une certaine force. Donc il va falloir arriver à s'en débarrasser. Sont des obstacles pour arriver donc à réaliser vraiment cette spiritualité qui est du côté de la vérité, qui est du côté de notre véritable nature, qui est la possibilité aussi de l'immortalité consciente. Et si une immortalité, bien sûr, ne peut pas être un but personnel, ce n'est pas la personnalité. Qu'il faut immortaliser, c'est qu'il s'agit de passer au-delà du temps. Nous sommes le témoin des choses qui se succèdent et nous ne sommes pas la victime du temps, nous sommes au contraire l'utilisateur. Nous devons, finalement, tout le monde doit être le bénéficiaire de toutes les étapes, de tous les cycles de l'évolution. C'est de ce côté-là que se situe l'immortalité. Donc il y a des obstacles, donc, qui sont nos attachements, nos peurs, nos identifications, notre ignorance bien sûr, mais le mouvement théosophique nous rappelle régulièrement qu'il existe une voie. Et nous avons aussi des idées innées, des idéaux spirituels, hein, mais nous avons aussi bien sûr donc des attachements, nous avons tendance à nous identifier à notre personnalité, hein, nous avons tendance à être orgueilleux, on pourrait même être spirituellement, entre guillemets, orgueilleux. Nous avons tendance à être attachés à telle ou telle chose, à la boisson, la nourriture, la sexualité. Alors nous ne sommes pas contre forcément la spiritualité, hein, mais nous avons tendance à repousser plus loin. Hein. On verra plus tard. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, il y a les religions dogmatiques qui disent, bon, ben, on peut peut-être s'arranger. Hein. Donc, voilà, ça. Bien, mais plus on s'attache, plus on alourdit notre karma, en quelque sorte. Mais nous avons le pouvoir de gagner la bataille. Mais c'est une bataille, il faut qu'elle soit livrée, bien comprise, et bien livrée, c'est une bataille. Et il y a donc des étapes dans cette bataille, dans cette remontée vers l'esprit, alors même que nous restons finalement des êtres incarnés, mais, et que c'est ici-bas que nous menons cette bataille, hein, c'est une remontée vers l'esprit qui est en fait toujours là. Il s'agit bien de comprendre qu'un même esprit pénètre toute chose, comme dit la Bhagavad Gita, et de bien se pénétrer de cette idée. Et donc, il y a des étapes, hein, et chaque étape peut être considérée comme le franchissement d'une porte. Globalement, ce sont des portes d'or, hein, qui permettent de déboucher dans l'illimité, consciemment, pleine conscience. En fait, à un certain degré de réalisation, bien sûr, mais néanmoins, c'est l'esprit universel. Mais donc, il y a des étapes. Bon, il y a des étapes, bien sûr, où on va se débarrasser d'abord de tel ou tel défaut, ou cultiver telle ou telle qualité, sur la base de la fraternité, des divinités. Bon, mais ça va peut-être encore être une purification incomplète. Vous allez voir donc une bataille plus sérieuse. Il y a non seulement les obstacles que nous générons nous-mêmes, hein, par l'attachement à ceci ou à cela, l'identification à ceci ou à cela, mais il y a aussi toute la société dans laquelle nous vivons, hein, son aspect psychologique, hein, inférieur, non spirituel, qui réagit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gardien du seuil, hein, le seuil de la porte, hein, ou des portes. Voilà. Toujours le même symbolisme. Ces portes, la notion de porte, c'est aussi quelque chose qui est relativement étroit. Hein, relativement étroit, mais parce que c'est un peu difficile. Hein, il y a une convergence. Hein, bon. On se détache des choses limitées pour pouvoir passer la porte et déboucher sur l'illimité spirituelle. Donc on peut reprendre, si on veut, la lecture de tout à l'heure, hein, pour essayer de comprendre qu'il s'agit effectivement non pas de développer un gentil caractère et avoir quelques croyances ou quelques romantismes, mais il s'agit vraiment d'étapes de réalisation profonde où il faut vraiment maîtriser, se débarrasser de tout ce qui peut gêner et ne pas se laisser influencer, impressionner par quoi que ce soit. Il n'y a que donc la lumière de l'esprit qui puisse vraiment nous éclairer. Hein. Donc il faut se méfier des petits reflets, hein, trompeurs. Alors, nous allons revoir. choses. Ça s'appelle, c'est le traité 3, c'est 7 portails, hein, toujours symbolisme. Donc, voilà. Donc, c'est des éléments qui ne paraissent que d'être, paraissent effectivement assez simples, hein, la douce patience, la plus harmonie, la charité, mais ce sont vraiment des portails, il s'agit vraiment de, à chaque fois, d'un acquis, hein, d'un acquis puissant, hein, en relation, donc avec l'esprit universel, c'est-à-dire d'un à la clé de charité et d'immortel amour. Hein, d'immortel amour, on sait que là, on est déjà dans une référence spirituelle. On part sur la réalisation plus vraie du soi et la conviction plus profonde de la fraternité universelle et le véritable service de l'humanité. Hein. C'est des propos donc, qui sont dans notre déclaration. Hein. C'est un premier portail. Hein, et il y a une clé à chaque fois, c'est ça la clé. Hein, c'est donc à chaque portail, il y a une clé d'or, toujours l'or, qui en ouvre l'accès, et ces clés sont, donc Dana, c'est une clé pour franchir un pas dans notre évolution spirituelle. Et Shila, c'est la clé de l'or. La deuxième, c'est la clé d'harmonie, en parole et en acte. Alors, hein, c'est pas un truc personnel où, bon, on est bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous, entrez, asseyez-vous, bien sûr. Il peut y avoir cet aspect des choses, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière, bien sûr. Hein. La clé d'harmonie en parole et en acte, la clé qui rétablit l'équilibre entre la cause et l'effet, hein, donc on est là, hein, dans une attitude très, très, très intelligente, il faut de la vigilance, hein, de l'intuition, et il ne laisse plus de place à l'action karmique, c'est-à-dire il s'agit d'agir vraiment en rapport avec la clé de charité, d'immortel amour et tout ce qui va suivre. Il ne laisse plus de place à l'action karmique. Alors la troisième clé, c'est chanter la douce patience que rien ne peut troubler. La patience, ben oui, bon, il est patient, bon, il a la poste, il attend, bon, très bien, ça c'est le premier pas peut-être, mais c'est une patience qui va beaucoup plus loin que ça, c'est une patience qui est un accord profond avec l'évolution qui n'a pas de fin, hein, qui n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être impatient, non seulement dans notre évolution, parce que à ce moment-là, ça serait un élément personnel, on voudrait têter le spirituel comme un nourrisson vorace, il y aurait quelque chose d'un peu égoïste dans cette idée. Puis, si, l'impatience par rapport aux autres, hein, par rapport toujours à la clé de charité, par rapport aux autres. Oh, dans l'impatience, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, on devient dogmatique, ou on se décourage. L'impatience amène au découragement, et ça serait bien dommage. Hein. Voilà. L'autre clé, c'est l'indifférence au plaisir et à la douleur. Bon, voilà, c'est un stoïcien, mais non, c'est voir beaucoup plus loin que ça. Que le stoïcien, il y a souvent des motifs personnels à être stoïque, bon, ça c'est bien utile, hein. Mais disons qu'il faut le restituer dans un autre contexte, comme ont pu le faire d'ailleurs des philosophes stoïciens, hein, la différence au plaisir et à la douleur, l'illusion vaincue, la vérité seule perçue. Alors la vérité seule perçue, bon, c'est confirmé par la suite, puisque avec Viriya, il y a une association forcément, hein, c'est l'énergie indomptable qui ferait sa route vers la suprême vérité hors de la boue des mensonges terrestres, hein, des illusions, des apparences, des apparences physiques, des apparences astrales. On monte au-delà du plan physique et du plan astral vers les plans spirituels. Alors Dhyana, dont la porte d'or, on retrouve donc là, symbolisme de porte d'or, une fois ouverte, conduit le Naljor, le saint, l'adepte, puisqu'à ce stade, ça y est, vers le royaume de l'éternel Sat, hein, d'être t'es la vérité, et à sa contemplation sans fin. Et comme nous l'avons vu, hein, il ne s'agit pas d'en rester là, hein, Prajna, la septième clé, ce qui fait de l'homme un dieu en le créant Bodhisattva, fils de Dhyani. Et donc il est allé donc s'associer au dieu, et c'est un être de compassion, un Bodhisattva. Hein. Bon, ce n'est pas étonnant, puisqu'on était parti sur la clé de charité et d'immortel amour. Hein. Mais là, il y a une confirmation, hein, une vie spirituelle authentique et pure, en rapport avec avec cette compassion, en rapport avec cette fraternité qui repose sur l'unité. Telles sont les clés d'or des portails. Donc voilà, ce sont des étapes avec une... c'est détaillé par la suite, mais on voit qu'il y a un combat. C'est vraiment quelque chose qu'on ne franchit pas comme ça, dans un fauteuil porté par des anges. C'est un combat intérieur. Nous avons tout ce qu'il faut, c'est bien dit dans la Gita, tout ce qu'il faut pour le gagner, parce que nous sommes fondamentalement l'esprit lui-même. Voilà, et tout l'univers existe pour que nous gagnions pour l'expérience et l'émancipation de l'âme. Les portes, donc, elles sont faites pour être ouvertes par nous, mais il faut, bien sûr, utiliser donc les clés que nous avons vues. On peut aussi essayer de retrouver dans d'autres traditions qui, au fond, exposent les mêmes idées. Pour la théosophie, à la base, il y a une seule hypnose et il y a toutes sortes de religions qui exposent, à travers leurs textes fondamentaux, le chemin d'une certaine façon, allégorique, des allégories. Avec toutes les épreuves de l'initiation, même Apulée a écrit l'âme d'Apulée, l'âme d'Apulée, il lui arrive un tas de trucs, c'est pas toujours très joli, puis finalement, il arrive à l'initiation, et Apulée n'en parle pas beaucoup parce que c'est secret. Mais tout, dans la vie, nous prépare cette initiation. C'est-à-dire que chaque moment de la vie, peut-être un piège, une épreuve, un petit test, petit en apparence, mais qui prépare à autre chose. Mais d'un autre côté, voyons les choses positivement, il ne s'agit pas de piège, il s'agit fondamentalement d'opportunités. À chaque instant, nous pouvons progresser spirituellement, parce qu'à chaque instant, nous pouvons effectivement laisser tomber les vieux attachements, qui sont des attachements des choses qu'on connaît déjà et qui emprisonnent l'âme dans des choses limitées. À chaque instant, nous pouvons essayer de servir au mieux l'autre qui est une âme et qui est nous-mêmes quelque part. Il n'y a pas d'obstacle fondamental à partir du moment où on a compris ces bases. C'est dans la vie de tous les jours que on utilise cette première clé de charité et d'immortel amour et que on commence aussi à se détacher des choses et ne veut plus accorder de valeur à la douleur ou au plaisir, on peut les ressentir, mais ne plus se laisser déstabiliser ou leur accorder une valeur qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, ce livre sur les portes d'or commence par la recherche du plaisir. Il ne nous apprend pas comment on recherche le plaisir, mais comment on devrait peut-être le rechercher, pour finalement à progresser dans la vie. C'est-à-dire qu'un plaisir, on l'a éprouvé une fois, on passe à autre chose, mais on passe à un plaisir qui, finalement, n'est plus dans la sensation, mais dans la perception de l'autre. Ça peut en faire progresser, mais bien sûr, il y a la signification de la douleur qui est toujours là, mais qui est là pour nous rappeler que il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester ici. Bien sûr, il y a le plaisir, mais il y a donc la douleur liée, il y a souvent en fait à l'attachement, qui vient nous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton rapport à la vie, dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport aux autres. Cela nous invite à réfléchir, et nous avons de quoi réfléchir, et le mouvement théosophique nous fournit des éléments à travers tous ces ouvrages et ces manières différentes d'exprimer les choses, mais finalement, qui ramènent toujours aux mêmes idées. Pour les grands états de conscience qui sont au-delà de la forme, on en trouve des traces dans la voie du silence, hein, au début, c'était numéro 1, hein, passe les. Là, il y a un symbolisme avec, donc, comme on l'a vu, le plan physique, correspond à une certaine salle. Hein. Voilà, donc, et puis. Il y a la première salle, l'ignorance, Avidya, c'est la salle où tu as vu le jour, où tu vis, où tu mourras. La seconde salle a pour nom salle d'apprentissage. Là, ton âme trouvera les fleurs de la vie, mais sous chaque fleur, un serpent levé, donc attention. Et là, non, la troisième salle est sagesse. Au-delà s'étend des eaux sans rivage, l'akshara, l'indestructible source d'omniscience. Hein? Voilà, il n'y a que de la lumière spirituelle. Hein? Donc, il y a des états de sujukti, des états de Turiya, hein, on les trouve aussi dans les Upanishads. Bien sûr, on a parlé de Nirvana, de Paranirvana. Dans la voie du silence, on trouve non seulement le quatrième état, donc, qui correspond au grand Samadhi, appelé aussi Turiya, mais de là, on peut passer dans les sept mondes de... Bon, là, ce sont des mondes, des planètes matérielles, hein, bien sûr, ça correspond à des états, des étapes de conscience. Hein. Voilà, et pour terminer, nous allons lire un passage des Portes d'Or sur finalement l'esprit, hein, sur l'esprit, sur le au-delà de la forme. C'est une vérité incontestable que l'homme détient vraiment l'infini en lui-même et que l'océan est réellement contenu dans la coupe. Mais s'il en est ainsi, c'est tout simplement parce que la coupe est absolument inexistante. Elle n'est qu'une expérience de l'infini qui n'a aucune permanence et qui est susceptible d'être réduite à néant à tout moment. En prétendant que les quatre murs de sa personnalité sont réels et permanents, l'homme commet la vaste erreur qui l'emprisonne dans une suite prolongée d'incidents malheureux et intensifie continuellement l'existence de ses formes favorites de sensations. Le plaisir et la douleur deviennent pour lui plus réels que le grand océan dont il est un fragment et où se trouve sa demeure. Sans relâche, il se heurte douloureusement contre ses murs, où il ressent la sensation et son soi minuscule oscille dans la prison qu'il s'est choisie. Voilà, donc la prison, elle a une porte, elle est en or. Nous allons maintenant laisser la place au...